Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. Dimitri Tillois-Dambrosi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes professeur en lycée, doctorant à Lyon 3. Nous avons déjà enregistré deux cours d'histoire ensemble qui complètent une émission sur votre spécialité. Donc, que mangeaient les Romains, l'Empire romain par le menu, c'est un livre qui est paru aux éditions Arquet. Au cours d'un premier cours d'histoire, nous avons étudié le pouvoir de l'empereur romain. Au cours d'un deuxième cours d'histoire, nous avons vu comment l'Empire romain était organisé et nous entamons l'étude d'un document qui est un document très important, qui fait partie du programme scolaire. Il s'agit de la table claudienne. La table claudienne incarne en quelque sorte le lien entre le monde d'en bas, et je ne vais pas dire le monde d'en haut, mais le monde romain, entre Rome et ses provinces. Avant de voir ce qu'est cette table claudienne, le nom est associé à un empereur, Claude. Qui était l'empereur Claude ?
Alors l'empereur Claude, évidemment, est associé à ce document, et ça me semble important de se pencher sur sa personnalité, sur son histoire, pour comprendre ce document. Claude est le quatrième empereur de la dynastie julio-claudienne. Il succède à Auguste, Tibère et Caligula. Caligula est assassiné en 41 après Jésus-Christ par les gardes prétoriens. Caligula n'avait pas d'héritier, de successeur désigné. Claude fait partie de la famille impériale, mais rien ne le prédestinait au pouvoir. Dans les sources, on affirme en effet qu'il était la honte de la famille à cause de son aspect physique, de ses handicaps. Donc on voulait plus le cacher d'ailleurs vraiment que le mettre en avant. Et donc lors de l'assassinat de Caligula, les prétoriens parcourent le palais en tous sens pour essayer de le trouver. Claude craint d'être assassiné évidemment dans la mesure où il est proche de l'empereur, mais à l'inverse de ce qu'il attend, les prétoriens le proclament empereur. Claude, il faut revenir un petit peu sur son parcours avant d'être empereur, avant ce moment fatidique dans son histoire, est né à Lyon. Ce qui, on va le voir, a une importance pour la compréhension du document. Il est né à Lyon en 10 avant Jésus-Christ. Il a évolué évidemment dans les cercles proches du pouvoir impérial. Il a une forme de légitimité quand même assez forte par ses ancêtres, puisqu'il descend de l'union de Marc-Antoine et d'Octavie, la sœur d'Auguste d'une part, et il descend également de l'union de Livie, la femme d'Auguste. Il descend de cette union avec un premier mari qu'elle a eu, et qui est le père de Tibère en fait. Donc il a des origines familiales importantes, très prestigieuses. Or la famille évidemment est très importante chez les Romains. Alors cet assassinat de Caligula évidemment lui profite. Il fait un donativum, donc un don d'argent important aux prétoriens pour s'assurer de leur fidélité. Et donc il va régner jusqu'en 54 après Jésus-Christ, date à laquelle se déroule le fameux banquet funeste durant lequel Claude est empoisonné. Plus précisément, ses ceps sont empoisonnés par Agrippine, qui veut se débarrasser de son mari et oncle également, pour porter au pouvoir Néron, qui n'était pas sûr d'accéder au pouvoir face à Britannicus.
Nous avons fait une émission avec Virginie Giraud sur Agrippine. On est sûr qu'il y a eu véritablement un empoisonnement ?
C'est ce que rapportent les sources en tout cas, c'est ce que rapporte Suétone notamment. D'autres sources littéraires se font l'écho de cet empoisonnement. Il peut évidemment s'agir d'un topos littéraire, bon, et ou une malveillance, une médisance en tout cas des sources, des auteurs sénatoriaux comme Suétone.
Alors, qu'est-ce que la table claudienne, Dimitri ?
Alors la table claudienne est un document de bronze conservé actuellement au musée gallo-romain de Fourvière. Cette grande plaque de bronze a été retrouvée sur les pans de la Croix-Rousse au XVIe siècle. À la Renaissance, une époque où on s'intéresse évidemment à l'Antiquité, donc c'est un document qui avait une grande valeur pour les humanistes de Lyon, Lyon étant une ville importante pour ce courant de pensée, et donc c'est un document qui a été conservé jusqu'à nos jours. Conservé, mais de façon fragmentaire, puisqu'il en manque un morceau, mais fort heureusement, grâce à Tacite, dans les annales, eh bien, on a conservé l'intégralité de ce discours qui a été retranscrit par Tacite, même si évidemment il l'a reformulé et réadapté en quelque sorte, mais du coup on peut en avoir la teneur dans son ensemble.
C'est important et ça arrive régulièrement ce genre de recoupement dans les recherches où d'un côté on a l'archéologie qui apporte son lot de découvertes et de l'autre les textes qui existent depuis et qui ont été préservés depuis nombreux siècles.
Alors ça arrive occasionnellement, bon souvent ce serait un petit peu abusif de le dire. On peut penser par exemple au fameux bouclier des vertus d'Auguste qui est mentionné dans les textes. On sait qu'à Rome, le Sénat a autorisé le Sénat a affiché dans la curie où il se réunit sur le forum un bouclier où sont un bouclier en or d'ailleurs, hein, où sont inscrites les différentes vertus que possède le prince, la vertu, la clémence, la piété par exemple. Alors ce bouclier en or a été perdu, mais par chance à Arles, on a retrouvé dans la colonie d'Arles un bouclier en marbre qui est la copie de celui de Rome. Et en fait, une colonie de province, eh bien, avait en son sein un document, un objet qui était une réplique exacte de ce qui pouvait se trouver à Rome et qui illustre bien du coup les liens très forts qui existent entre les périphéries et plus ou moins éloignées d'ailleurs et le centre du pouvoir impérial.
La table claudienne est donc un discours. Qui est concerné par ce discours? Mais avant tout, est-ce que tous les discours de l'empereur étaient considérés comme important au point de d'être gravé dans le marbre?
Alors tous les discours des empereurs ne sont pas conservés dans le marbre ou dans le bronze, hein. Et d'ailleurs on en a assez peu, hein, qui ont été conservés directement, donc à ce titre c'est un document particulièrement précieux. Et donc les populations qui sont concernées par ce discours sont assez bien délimitées, puisqu'il s'agit des élites provinciales et même plus précisément des élites des Trois Gaules. Il faut revenir sur la date de ce document, il est de 48 après Jésus-Christ, et donc c'est un événement important pour l'histoire du pouvoir impérial, pour l'histoire du Sénat, et pour l'histoire également des provinces.
Les Trois Gaules, ça recoupe en fait une division de ce qu'on appellerait aujourd'hui la France?
Alors pas tout à fait, parce que ça déborde des frontières de la France. Ce qu'on appelle la Gaule, en fait, c'est un petit peu impropre, puisqu'elle est composée de 4 provinces, pour être plus précis. À l'époque du Haut-Empire, il y a la Narbonnaise, qui est sous domination romaine depuis les années 120 avant Jésus-Christ, qui est une province anciennement intégrée, très bien romanisée. D'ailleurs, les Romains n'hésitent pas à parler de la Provincia Nostra, notre province, d'où vient l'expression Provence, hein, d'ailleurs. Et ensuite, on a les Trois Gaules, ce qu'on a appelé auparavant la Gaule chevelue, un territoire qui était conquis par César durant la guerre des Gaules, hein, entre 58 et 52 avant Jésus-Christ. Et donc, ces trois Gaules, ce sont les provinces d'Aquitaine, les provinces de Lyonnaise et la province de Belgique.
Donc revenons donc sur ce discours, sur ces populations qui sont concernées. Que dit ce discours?
Alors ce discours est extrêmement intéressant, bon, déjà pour sa portée historique évidemment, mais également puisqu'on y discerne assez bien la personnalité de Claude et ses centres d'intérêt. Tout au long de ce discours, en tout cas pour une bonne partie de ce discours, on le voit sur le texte de la table, on le voit dans le texte de Tacite, eh bien Claude insiste sur l'histoire de Rome. Il fait un historique en quelque sorte de l'intégration des étrangers dans le système politique romain par Rome depuis l'époque royale. Il dit que déjà durant l'époque royale, des étrangers ont régné sur Rome. Et en effet, hein, Rome a eu plusieurs rois étrusques, donc étrangers aux Romains. Il parle également d'histoire plus récente. Il dit que durant la guerre des Gaules, certains peuples, notamment les Éduens, se sont alliés aux Romains, ont aidé à la conquête et ont été particulièrement fidèles. Ce qui est vrai puisque les Éduens, avant la conquête des Trois Gaules par César, hein, étaient un peuple ami et allié de Rome. Bon, même si en 52 avant Jésus-Christ, hein, ils se sont rebellés durant la résurrection générale de Vercingétorix, mais ça, Claude évidemment se garde de le dire, hein, pour ne pas nuire à ses arguments. Et puis bien plus, Claude rappelle que certaines villes de Gaule, comme Vienne, par exemple, ont déjà donné des sénateurs à Rome, et que ces sénateurs ont très bien accompli leur mission, qu'ils ont été très bien accueillis et ont donné entière satisfaction. Mais Vienne fait partie de la Narbonnaise, une province intégrée depuis plus longtemps, évidemment, que les Trois Gaules.
En quoi ce discours est important? Est-ce que ce caractère gaulois que vous décrivez, auquel Claude semble rendre hommage, est une chose que l'on retrouve par ailleurs dans les autres provinces romaines, ou est-ce une situation unique?
Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, Claude est né à Lyon. Donc, il y a une forme peut-être de sensibilité par rapport à ses provinces qui a pu jouer. Mais également, ce qui est important d'avoir en tête, c'est l'image que les Romains ont traditionnellement des Gaulois. Même si ce sont des Romains intégrés, sous domination romaine, que certains vivent parfaitement la romaine, les Romains gardent en tête un traumatisme qui est 490 avant Jésus-Christ. Puisqu'à cette date, les Gaulois avaient attaqué Rome. C'est le fameux sac de Rome par Brennus. Et donc, les Romains gardent en tête l'image du Gaulois barbare, menaçant. Il y a une forme de peur et en même temps de respect, en quelque sorte, pour ces guerriers gaulois redoutables. Donc, c'est une forme d'ennemi héréditaire, en quelque sorte. Et donc, pour des sénateurs, que des Gaulois, même s'ils sont intégrés, même s'ils ont la citoyenneté romaine, prétendent au Sénat romain, c'est une forme de souillure, presque, en quelque sorte. Il faut rappeler également que les sénateurs romains sont très attachés à ce que les sénateurs soient issus des grandes familles aristocratiques romaines. Et donc, que ces étrangers arrivent au Sénat, pour eux, c'est une forme de dégradation du statut de sénateur. Et donc, c'est pour ça que Claude doit autant insister pour que ces membres des élites gauloises puissent intégrer le Sénat. Claude, on l'a dit également, est moqué très souvent par les sources, notamment à cause de ses handicaps, qui semblent assez lourds. Et donc, il semble important pour lui peut-être d'insister face au Sénat pour asseoir son autorité. Claude est présenté parfois comme un empereur faible, de façon un peu négative par les sources, il faut vraiment le rappeler, parfois par l'historiographie malheureusement, alors que son règne est plutôt positif. D'ailleurs, on peut aussi lui imputer la conquête de la province de Bretagne, en Angleterre actuelle, ce qui est quand même un exploit vraiment, puisque l'Empire s'accroît considérablement. Et donc il s'agit vraiment d'intégrer ce territoire gaulois davantage au sort de l'Empire.
Est-ce que, Dimitri, cette table claudienne, ce discours, était, on a compris, comme une forme de révolution pour ces sénateurs qui n'acceptaient pas que ces Gaulois deviennent, arrivent à leur niveau. Est-ce que c'était une obligation, au fond? Est-ce qu'il fallait renouveler le Sénat? Est-ce qu'il fallait faire en sorte que les populations de l'Empire soient représentées?
Alors, comme on l'a dit, le Sénat n'a pas un rôle essentiel au niveau du pouvoir sous le Haut Empire, puisque l'empereur le contrôle. Mais malgré tout, il garde un très très grand prestige. Et c'est justement à ce titre qu'il est important pour l'empereur de marquer l'association des provinciaux au sort de Rome, en leur donnant la citoyenneté d'une part, mais là, c'est une étape supplémentaire qui est franchie. Ils ne se bornent plus à être simplement citoyens, désormais, ils exercent des responsabilités au plus haut niveau de l'Empire. Donc il s'agit vraiment d'une reconnaissance, et puis également d'un changement de regard sur les provinciaux. Désormais, et ça c'est important, on ne les voit plus comme des gens soumis et vaincus, mais ils sont associés, ils sont comme des frères finalement du peuple romain. Une tendance qui va vraiment se confirmer au IIe siècle après Jésus-Christ, où il y aura une plus grande égalité en quelque sorte dans le discours qu'on va porter sur ces provinciaux.
D'où la citoyenneté romaine que nous étudierons.
Avec Caracalla.
Voilà, avec Caracalla. Une dernière question, vous êtes de Lyon, de la ville de Lyon, vous êtes doctorant à Lyon 3, on peut voir cette table claudienne?
Alors cette table claudienne peut toujours être vue en effet au musée gallo-romain de Fourvière, c'est une des pièces majeures du musée, mais elle est actuellement à Fourvière. Or, dans l'Antiquité, elle était exposée sur l'autre colline de Lyon, celle qui prie, comme on dit aujourd'hui, la colline de la Croix-Rousse, la colline qui travaille. Cette colline de la Croix-Rousse était à l'origine, à l'époque romaine, un territoire à côté de Lyon. La cité de Lyon, à proprement parler, était bornée à la colline de Fourvière. En face, de l'autre côté de la Saône, il s'agissait d'un pagus, c'est-à-dire une agglomération secondaire, on pourrait traduire ça ainsi, du nom de Condat. Et sur cette colline de la Croix-Rousse, ou sur les pentes, il y a des débats actuellement pour localiser précisément ce sanctuaire, se trouvait un sanctuaire très important, fondé à l'époque d'Auguste, le sanctuaire des Trois Gaules. Il s'agit d'un sanctuaire fédéral, puisqu'en fait, chaque année au mois d'août, se réunissent des délégués de la soixantaine de cités qui composent les Trois Gaules. Ils se réunissent en août pour honorer l'empereur à travers le culte impérial. C'est un moment extrêmement fort de l'année, évidemment, pour ces trois provinces, et à l'échelle de l'Empire, presque. Ce sanctuaire, de quoi est-il composé? Alors malheureusement, il n'en reste plus rien aujourd'hui, si ce n'est une partie de l'amphithéâtre. Il y avait un amphithéâtre, donc, qui servait de lieu de spectacle. D'ailleurs, c'est l'amphithéâtre où ont été tués les martyrs en 177 sous Marc Aurèle, hein, avec Sainte-Blandine par exemple, un lieu de spectacle et un lieu aussi de rassemblement, de discussion pour ses représentants des cités. Et puis à côté, un immense hôtel, un grand hôtel monumental, borné de deux colonnes qui sont connues par des monnaies. Donc on sait grâce aux monnaies à quoi ils pouvaient ressembler. Et à proximité du sanctuaire, on sait que la table claudienne était exposée ici. Et le symbole est très fort puisque c'est le discours de l'empereur qui est prononcé à Rome qui est affiché au cœur de la colonie, enfin, en tout cas à côté de la colonie de Lyon. Et le fait évidemment que ce document soit affiché marque que les élites gauloises ont pu accéder au Sénat. Le discours de Claude a été suivi des faits puisque des Gaulois ont pu entrer au Sénat et plus précisément des Éduens, nous dit Tacite.
Donc c'est un texte de loi qui est un discours qui est rentré dans les mœurs.
Tout à fait, c'est un discours qui a fait date et qui marque une intégration plus profonde des provinciaux au sort de Rome.
Ben merci beaucoup Dimitri, ainsi se clôture la trilogie consacrée à la construction du pouvoir impérial, à l'organisation de l'Empire et enfin à cet exemple de la table claudienne. Je donne rendez-vous nos auditeurs pour une nouvelle série de cours d'histoire avec vous Dimitri toujours, mais cette fois sur la citoyenneté romaine et bien évidemment la romanité. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.